Vous écoutez Radio Show Football, la bande à Baggio, l'émission 100% foot.
Les Brésiliens sont en blanc, à Mehdi Pelé. Ça débute, fabuleux.
On retraite, c'est bien fait.
Allez mon petit bonhomme. Ouais.
It comes for Cantona! I don't believe it!
La frappe de Neymar!
Quel but!
Le face-à-face! Ouais! Et voilà! Antoine Griezmann à la 27e minute!
Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille!
Salut à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast de la bande à Baggio. Aujourd'hui, on est assez nombreux à débriefer de la 5e journée de Ligue 1. Et puis, on parlera aussi de la semaine européenne qui enfin recommence cette semaine. Et avec nous ce soir, bon bah messieurs, je vais être galant. Hein, ce soir, on va commencer par les filles. Manon qui vient nous rejoindre, qui est supportrice de Lyon. Bah écoute Manon, allez vite fait, présente-toi à tous ceux qui nous écoutent.
Alors moi, c'est Manon, voilà, j'aime le foot depuis longtemps. J'ai eu la chance de vivre dans le ventre de ma mère 98, mais je suis quand même étoilée. Et j'aime, ouais, du coup, une petite préférence pour Lyon. Après, je regarde beaucoup de matchs, mais Lyon, c'est vraiment le club que je préfère.
D'accord. Voilà. Bah, écoute, bienvenue à toi. Hein, bienvenue à toi. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de femmes dans l'émission. Et ça fait toujours plaisir d'avoir une voix féminine. Donc, ben, bienvenue à toi. Et puis voilà. Nous avons Gabi aussi. Salut Gabi.
Ouais, salut les gars. Salut à tous.
Et Joseph, salut Joseph.
Salut tout le monde, bienvenue Manon et tous les auditeurs, une bonne saison.
Voilà, et Hugo, salut Hugo.
Salut Nico, salut tout le monde.
Voilà, donc on va parler de la 5e journée de Ligue 1, on va parler de 4 matchs phares qui se sont déroulés donc ce week-end, et même à partir de vendredi, ça a commencé avec le PSG qui recevait Saint-Etienne. Et bah, écoute Gabi, que dire de Paris ? Paris qui a déroulé, Paris qui n'a pas été inquiété plus que ça par Saint-Etienne. Moi je pense que Paris cette année en championnat ça va être tranquille. Et après les vrais tests ce sera en Ligue des Champions, t'en penses quoi ?
Ouais, comme on a dit, Paris est en rodage depuis le début de saison sur ses premiers matchs de championnat. Moi, ce que j'ai apprécié surtout pour ce match-là, c'est la venue de nouveaux joueurs un peu mis dans l'effectif alors qu'ils sont pas forcément prêts. C'est un truc que j'ai pas compris. Je suis un peu ironique sur ce coup. C'est-à-dire que mettre Bernat, en fait, sur ce match, alors que tu vois que physiquement, il est pas prêt, etc., alors que tu avais des jeunes qui avaient fait le début de saison, qui auraient peut-être mérité de jouer un tout petit peu. Et Lassana Diarra qui est sorti à la mi-temps et après l'équipe qui arrive à planter des buts. Je pense qu'il y a deux, trois petits trucs qui m'ont gêné dans ce match-là. C'est-à-dire qu'il y a toujours cette nonchalance que tu vois planer autour de l'équipe. Et l'équipe qui gagne grâce à des individualités, souvent. Et encore une fois, sur ce match, j'ai été très déçu par Saint-Etienne qui est venu au parc pour se faire fesser, clairement. Ils sont venus en touriste. Si Retro nous écoute, voilà, je pense qu'il aura énormément de choses à dire sur son équipe de Saint-Etienne. Très déçu par la prestation de Saint-Etienne qui a pas donné d'opposition. Et finalement, c'est un match sur lequel j'ai pas forcément envie de m'attarder parce qu'il n'y a pas grand chose à dire. Il y a très très peu de choses à dire. Et je sais pas, moi je préfère vous laisser parler sur ce coup-là parce que comment vous avez vécu le match, par exemple, Joseph ou...
Ouais, vas-y, Joseph.
Bah, moi j'étais très déçu par, comme tu dis, par Saint-Etienne. Le matin, j'en parlais avec des collègues et je disais s'il y a un match que Paris peut perdre, c'est celui-là. Parce que justement, sans Mbappé, sans Neymar, sans forcément d'idées concernant l'animation offensive avec l'absence de ces deux joueurs, je pensais que Saint-Etienne serait plus conquérant. Et je pense qu'il y a un truc qui doit faire bugger Stéphane Ruffier, c'est quand il voit un maillot de Paris en face, quoi. Parce qu'en fait il en prend encore 4, quoi. On pensait que c'était Ibra, mais non, je crois que c'est Paris en fait qui le fait bugger, quoi. Et ça me fait peur en fait pour l'intérêt du championnat, parce que même si on sait que Paris, il y a de fortes chances que Paris soit devant, mais j'ai peur que les écarts ils soient énormes. J'avais beaucoup misé sur un gros match de Saint-Etienne pour accrocher Paris. Je me dis, ben, si un match comme ça il le gagne, ça va être dur de les voir perdre pendant cette année, quoi.
Il y a juste l'entrée de Moussa Diaby, là, le nouveau, le petit jeune, là, qui a été sympatoche. Mais il est assez maladroit sur certains trucs. Tu vois que tactiquement, il a envie de donner, mais il ne sait pas se placer encore.
Ouais.
Et il faut voir les prochains matchs. Mais il a marqué son premier but au Parc. Et pour lui, c'est un bon encouragement pour la suite. À espérer qu'il ne prenne pas la grosse tête. Quoi. Voilà.
C'est un bon encouragement. Et puis tu vois que Tourelle, il était vraiment très content que Moussa Diaby marque. Quoi, tu vois, je pense qu'il s'est dit que de faire jouer les petits jeunes comme ça, ça va permettre déjà aux joueurs de souffler. Et Paris d'enchaîner des matchs comme ça. Pour ça, c'est des matchs amicaux pour Paris. Je suis désolé, mais j'étais un peu comme vous. Hein. Je me disais pourquoi pas Saint-Etienne gêné de Paris Saint-Germain. Et puis finalement, tu te rends compte que Paris, ils ont marqué quoi, la 23e minute. Jusque-là, Saint-Etienne avait montré 2-3 trucs intéressants. Puis après, ils sont complètement relâchés. Et ça, c'est le gros souci de toutes les équipes cette année. Dès qu'ils prennent un but contre Paris, j'ai l'impression qui se disent bon bah c'est mort, on va pas pouvoir gagner. Et là t'avais pas Mbappé, t'avais pas Neymar. Je pense qu'il y aurait eu les deux.
Et même t'as Marquinhos qui reste sur le banc, c'est normal, il a même pas eu besoin. Enfin ça fait peur, quoi.
Mais voilà, bon, il fait jouer une équipe entre guillemets bis pour se préserver pour Liverpool, ce qui est tout à fait normal de toute façon, hein. Donc premier gros test de Paris, finalement ce sera demain face à Liverpool, quoi.
Ouais.
Manon, est-ce que tu as vu le match?
Non, je l'ai pas regardé celui-là.
D'accord. Bon, c'est pas grave, il y a le droit. Hein. Et toi, Hugo?
Oui, moi, j'allais dire que je suis pas tout à fait d'accord avec toi quand tu dis que peut-être qu'avec Neymar et Mbappé, ils auraient gagné plus largement. J'ai l'impression que justement, Neymar et Mbappé, enfin surtout Neymar, ils phagocytent un peu le jeu de Paris sur eux. Là, j'ai trouvé que le PSG, pour ce match contre Saint-Etienne, a joué de manière bien plus fluide. Sans eux, enfin, on avait l'impression que j'ai un peu l'impression que Neymar, quand il a le ballon, il veut trop garder la balle et qu'il des
il
fois,
il essaye
de faire le spectacle. Ouais. Il dribble, il s'empale sur un défenseur. Alors que là, j'ai l'impression que sans lui et sans Mbappé, le jeu était un peu plus fluide vers l'avant. Un PSG que j'ai trouvé aussi aux deux visages, hein, parce que la première mi-temps, c'était pas ça. La première mi-temps, il y a eu, il me semble, plus de tirs même du côté de la Saint-Etienne, si je me trompe pas. Et en deuxième période, Paris a déroulé. Peut-être que Saint-Etienne n'était pas au niveau physiquement, qu'ils ont complètement lâché en deuxième période. Je vois que ça pour voir un tel écart de niveau entre la première et la deuxième période.
Par contre, juste pour te reprendre, Hugo, j'ai pas dit que ça aurait été plus facile avec les deux. Ce que je voulais dire, si je me suis mal exprimé, c'est que dans l'approche du match pour une équipe comme Saint-Etienne, t'es censé être plus à l'aise dans ton approche de match quand tu sais que t'as deux poisons en moins comme Neymar et Mbappé. Après on sait comment c'est, et comme tu le dis très bien, c'est deux joueurs qui enlèvent de la fluidité au jeu, mais je pensais que Saint-Etienne aurait profité de l'absence de ces deux joueurs, et pour le coup non, ils l'ont pas fait. Même s'ils ont ils ont pas été complètement mauvais, ils ont pas été mauvais non plus, mais le score reste sévère quand même.
Et pour rajouter un dernier truc, juste la défense, même si bon, elle n'a pas été superbement inquiétée sur ce match, je suis pas super rassuré pour demain contre Liverpool. J'ai l'impression que la défense est assez lente, surtout Bernat qui s'est quand même fait plusieurs fois dépasser, notamment par Monet Paquet.
Ouais.
Donc voilà, demain contre Salah et Mané, ça risque d'être un peu compliqué.
Ouais, mais t'auras Marquinhos. Ah, Marquinhos qui a pas joué.
Ouais, je pense qu'il se reprendra à sa place. Ouais. Mm. Voilà, vous voulez rajouter quelque chose d'autre sur ce match?
Non, rien de spécial.
Non, pour moi,
voilà, une victoire finalement tranquille pour Paris, qui est premier avec 5 victoires en 5 matchs, hein, 15 points. Voilà, tranquille, hein, plus une différence de plus 13. Pour le moment, Paris ne pouvait pas demander mieux, et voilà, c'est vraiment à partir de demain qu'il va y avoir les choses sérieuses pour le PSG. On en reparlera juste après la Ligue 1. Et on va passer au match de samedi à 17h. Et là, cette fois, nous avons pour une fois notre supportrice lyonnaise qui est là. Lyon qui se rendait à Caen, et Lyon qui fait encore du surplace de partout. C'est Nabil Fekir qui avait ouvert le score juste avant la mi-temps. Ensuite, c'est Claudio Beauvu sur pénalty qui égalise. 2-1 ensuite pour Caen, avec Prince Onyangé qui donne l'avantage pour Caen. Et Ferland Mendy, hein, l'homme fort de cette équipe lyonnaise, qui égalise à la 88e minute. Il y a eu deux cartons rouges pour le SM Caen dans ce match. Il y a eu pas mal de cartons jaunes aussi. Manon, je te laisse la parole. Qu'est-ce qui a manqué à Lyon pour pouvoir remporter ce match?
De toute façon, depuis plusieurs matchs, ils n'ont pas la motivation qu'ils avaient sur la saison passée. Ils ont quand même perdu, je pense, Mario Diaz a fait quelque chose. Enfin, ils avaient l'habitude de jouer avec et moi, je pense qu'ils n'auraient jamais dû le vendre. Enfin, ils auraient dû le garder.
Surtout qu'ils ne jouent pas. Avec
et je pense que sur ce fait-là, il faut qu'ils retrouvent leurs habitudes. En plus, c'était la première fois que Dembélé jouait réellement avec eux. Donc, du coup, faut...
Ah oui, on t'entend.
Ah. Après, on faut aussi en face, Guingamp, il y a eu quand même des moments où ils étaient bien, cherchaient bien à s'accrocher avec les Lyonnais. Et du coup, je pense que les Lyonnais sont un peu sortis de leur match, ils étaient plus sur ce point-là. Mm. On verra, enfin, de toute façon, je pense qu'on va faire partie de ceux qui vont pleurer à partir de demain, mais c'est pas grave.
Bon, peut-être qu'il y aura une autre mentalité demain, hein. Tu sais, la Ligue des Champions, c'est une autre compétition, hein. C'est des matchs qui se préparent différemment. Peut-être que Lyon va nous impressionner demain, hein. C'est possible aussi, quoi.
Ça serait cool, hein. Moi je prends, mais j'ai du mal à croire. Enfin, regarde, c'est quand même City, ils ont quelques joueurs qui sont blessés, mais
j'ai pas trop...
avoir un Memphis qui va être en feu. Il était pas trop en feu, on verra.
Ouais, mais regardez, hein, c'est souvent que ça se passe comme ça, que des fois les équipes en championnat ils font du surplace et puis finalement en Ligue des Champions ou en Coupe d'Europe ils font toujours des bons parcours. Premier truc qui me vient à l'esprit, c'est Marseille 2003-2004 quoi, quand ils sont allés jusqu'en finale de la Coupe UEFA. D'actuelle Europa League. En championnat ils avaient terminé 7e, ils étaient du surplace et puis finalement en Coupe UEFA ils étaient ils battaient presque tout le monde, quoi. Donc, demain, je pense que Lyon peut. Si ils ont une autre mentalité, si ils ont l'envie de gagner, demain, ils peuvent faire quelque chose. Ça va pas être facile, mais ils peuvent faire un résultat, quoi.
Et puis, il y a quelque chose. Bon, c'est juste un petit détail, hein. Mais je pense que Memphis, il sera motivé parce qu'il a joué dans le camp d'en face.
Voilà.
Il était chez United. Et des fois, voilà, il y a des petits ressorts psychologiques en termes de motivation qui peuvent faire que les mecs, ils donnent un peu plus. Et j'ai envie de croire que Memphis, après ce qu'il avait dit à la fin du mercato, en disant qu'il méritait mieux qu'un club comme l'Olympique Lyonnais, s'il veut le prouver, il sera obligé de le prouver avec Lyon et dans les gros matchs.
Surtout en Ligue des Champions. Ouais.
Attendez là, juste une petite correction. Il me semble
il sera attendu de toute façon.
C'est mercredi le match.
Ouais. Hein. Ouais, c'est mercredi par contre le match.
Ouais.
Oui.
Ouais.
Il me semble pas qu'il a dit qu'il méritait un meilleur club. Il me semble qu'il a dit qu'il avait d'autres ambitions que l'Olympique Lyonnais, ce qui n'est pas forcément pareil parce que. Je pense qu'il est justement motivé à aller au-dessus de l'Olympique Lyonnais et ça, je trouve que c'est un bon esprit. Que s'il avait dit je mérite mieux que l'Olympique Lyonnais, ça m'aurait pas plu comme déclaration.
C'est comme ça que vous avez eu.
L'ambition.
C'est comme ça que beaucoup de supporters l'ont compris en fait. Alors est-ce que ça a mal été traduit? C'est possible aussi, hein, des fois. Hein. Est-ce que traduit?
Non, il s'est réexpliqué après de toute façon.
Ouais. Après, il a été cambriolé.
Il s'est exprimé en disant comme quoi c'était Lyon et après, il y aurait peut-être possibilité d'un autre club, mais Lyon, c'est quand même le premier truc qu'il veut gérer.
Heureusement pour lui. Mais après.
Oui, non, mais s'il fait la même saison qu'il nous a fait la saison passée, ça va, on se porte bien quand même.
Après, vous avez vu, vous avez écouté qu'il s'était fait cambrioler il n'y a pas longtemps. Alors, est-ce que dans la tête, des fois, ça trotte pas un petit peu la peur de se faire recambrioler? Tu sais, on ne sait pas comment sont les gens psychologiquement. Mais peut-être que d'ici 2-3 matchs, après il va revenir comme il était avant. Là, tu sais, des fois il y a peut-être un petit moment où il n'est pas forcément bien.
Le Pérou, là, il avait mis un doublé quand même.
Ouais,
c'est vrai.
C'est sûr.
Il n'y avait rien en face. Enfin, pour moi, il n'y avait pas grand-chose en face, contrairement à ce que nous on a eu pendant la Coupe du Monde. Mais il a fait quand même un doublé. Et puis.
C'est sûr. Gabi, tu voulais parler un petit peu de ça?
Moi, en fait, je suis pas du tout d'accord avec vous quant à l'espoir des Lyonnais par rapport au parcours européen. C'est-à-dire que pour moi, la réalité du terrain est cruelle en Champions League. Monaco l'a vu l'année dernière en prenant 5 buts à Manchester, alors que Monaco, c'était une équipe largement supérieure à celle de Lyon cette année. Et Manchester City est largement supérieur à l'équipe qui avait aussi contre Monaco à l'époque. Donc je pense que ça peut faire très mal, mais dans le sens mauvais pour et très bon pour Manchester. C'est-à-dire que je pense qu'il y aura un assez gros score voire un 4-5. Parce que moi, j'imagine même pas une seule fois Memphis Depay sortir tout seul l'épingle du jeu est capable de...
Tout seul, non.
Impossible, impossible. Et quand je dis tout seul, c'est-à-dire que moi, je pense que c'est un joueur qui est tellement individualiste sur certaines actions à Lyon qu'il est, il est pas capable de jouer collectivement. Même Fekir. Fekir, il nous sort un beau coup franc à Caen, ok, ouais. Mais il a pas su amener ses attaquants pour les faire marquer ou... embellir le jeu lyonnais. Il n'a pas réussi à faire ça. Alors, est-ce qu'il y a un coup de fatigue après Coupe du Monde? C'est possible. Mais Depay, j'y crois pas qu'il puisse faire quelque chose contre Manchester, tout seul à Manchester. Moi, je vois bien l'exemple de Lille qui s'était déplacé au Bayern à une époque. Il y avait eu 6-1 ou 6-0, je ne sais plus. Et je crois que ça peut faire très très mal parce que Lyon n'est pas du tout préparé, n'est pas concentré sur les matchs de Ligue 1. Ils perdent énormément de points en championnat. Et se concentrer sur un seul match de Champions League où tu rencontres la meilleure équipe de la saison pratiquement, qui va sûrement être demi-finaliste ou quart de finaliste cette année, c'est une concentration extrême que Lyon n'a pas actuellement qu'il faudra. Et je crois que ça peut faire très très mal. Et Genesio aussi, c'est pareil. Genesio, si tu veux en parler maintenant.
Ah bah tiens, oui. Maintenant qu'on a une supportrice lyonnaise, qu'est-ce que toi tu penses de Genesio? Est-ce que tu penses que c'est l'homme de la situation ou est-ce que tu penses plutôt qu'il faudrait plutôt un autre entraîneur qui puisse gérer cet effectif lyonnais?
C'est compliqué. Il y a deux ans, quand on a bien réussi pendant l'Europa League, j'avais trop espoir. Je me disais, bon, on est bien et tout, faut qu'on continue. L'année dernière, il y a eu des matchs où bon, il a fait un bon coaching, on l'a senti sur le terrain, mais vu le début de saison, c'est compliqué. Il y en a beaucoup qui disent qui demandent sa démission, mais malheureusement, à mon avis, ça va se ramener. On va, à mon avis, voir le match. Surtout qu'en plus, fin de semaine, on va avoir contre Marseille, donc ça va être aussi un autre test. Mais je pense qu'à un moment ou à un autre, même si Ola se lève fort, il va falloir lui dire la porte est grande ouverte.
Ouais, mais trouver qui à la place, c'est ça, parce que là, comme le marché des transferts en plus est fini, qui peut venir à Lyon pour essayer de remonter cette équipe, quoi? C'est ça qui est compliqué, quoi. Pardon?
Ouais, c'est ça, c'est le problème.
Ouais.
Bah, je pense que le vrai problème, c'est que c'est pas forcément le nom du coach, mais je pense que ça va être surtout l'aura du coach.
Ouais, voilà.
Je pense que Jean-Michel Aulas, depuis en fait que Lyon et que l'Olympique Lyonnais en fait est devenu un grand club au moins en France, il a toujours eu des coachs un peu pantins, c'est-à-dire à qui pouvait regarder dans les yeux et lui dire vas-y baisse ton regard, le patron c'est moi.
C'est vrai. Le seul qui n'était pas comme ça un peu, c'était Puel, et ça s'est pas bien passé. Hein.
Oui, mais Puel, ils s'en sont rendus compte après.
Ouais.
Ils se sont rendus compte après qu'ils baisseraient pas les yeux devant le président. Mais tous, quand tu regardes, hein, que ça soit les Le Guen, les Puel au début, tous les profils en fait d'entraîneurs passés par Lyon, c'était que des pantins entre guillemets. Et je pense que pour que le club progresse, il va falloir une pointure. Mais aujourd'hui, est-ce que Jean-Michel Aulas est prêt à accepter qu'un coach lui dise t'es gentil, toi t'es président, tu présides, et moi je suis coach, je coach. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr qu'ils soient encore prêts.
Je pense pas.
Sur ce match, est-ce que vous vous rendez compte que Lyon fait match nul grâce à Samba, encore une fois, le gardien de Caen, qui coûte énormément de points à Caen depuis le début de saison? Ça va faire beaucoup.
On avait parlé déjà dès le premier match contre Marseille, et puis même contre Paris, surtout quand il avait complètement. Non, c'était pas contre Marseille, c'était contre Paris, qu'il avait fait bourde sur bourde. On avait dit que c'était pas forcément un gardien de la situation, et finalement tu le vois encore sur le terrain, et quand on n'y arrive pas non plus, quoi, c'est ça le truc.
Non, mais ce qui est dingue, c'est que Lyon se fait bouger contre une équipe à 10, quoi.
En plus, c'est vrai, on va pas signaler
à
ça.
9 à la fin.
D'abord à 10, après à 9, c'était vraiment juste à la fin du match, mais quand même, quoi, ça veut tout dire.
Quand tu vois ça, tu dis ça fait peur quand tu vois le standing supposé de l'Olympique Lyonnais, quoi. Mais
ils perdent à 10 contre une des équipes, peut-être même l'équipe qui pour moi sur le papier est la plus faible en Ligue 1. Il y a pas beaucoup d'équipes, je pense, en dessous du niveau du Stade Malherbe de Caen. Donc alors peut-être que eux aussi ont joué le match. Peut-être. Oh, ben Guingamp, après, on... enfin, je sais pas si on en parle.
Il y a match peut-être.
Si on en parle à la fin, ouais.
Bon, ben alors, je te donnerai mon avis sur Guingamp après.
Ouais.
Mais non, voilà. Après, est-ce qu'ils prennent les matchs par-dessus la jambe? J'ai un peu la pression quand même. Enfin, j'espère, parce que sinon, si c'est ça leur vrai niveau, ça fait peur.
Ouais. C'est sûr, c'est sûr. Tu voulais rajouter quelque chose d'autre, Hugo, sur ce match
Non, bah, pas spécialement. Après, bah, voilà, c'est la déception. Hein. J'attendais Lyon au tournant dans cette saison et bah, pour l'instant, ils me déçoivent énormément. Ils se sont. Alors, ils sont certes toujours assez efficaces offensivement, mais défensivement, finalement, c'est la catastrophe. Même si le Denayer, là, m'a bien plu. Il apporte quelque chose, je trouve. Mais bon, ça reste quand même frêle derrière. Que ce soit Mendy ou Raphaël, Mendy, c'est un bon latéral offensif, mais défensivement, c'est pas trop ça.
C'est sûr.
Et pareil, ouais, on en avait parlé quand il était à la mode. Si quelqu'un sait où est le vrai Oussem Aouar.
Exactement.
Pas mal.
C'est des joueurs qu'on peut retrouver leur niveau, ça.
Ouais, ben c'est surtout, moi je pense surtout c'est des joueurs qu'on a mis trop vite quoi.
Ouais, je sais pas si on prend un peu la grosse tête parlait, et puis qu'on arrête de bosser.
On parlait d'équipe de France, enfin on parlait d'équipe de France pour avoir, je sais pas si vous.
Ouais,
vous
mais on s'en souvient, tu te rappelles, il y avait
c'était
le reportage
dernière.
Sur on en avait parlé. On avait dit ils ont fait un reportage sur la ville où il habitait, et ça va lui monter la tête et comme quoi on avait raison.
Et puis voilà. T'en penses quoi toi justement d'avoir Manon, parce que je pense que tu l'as un peu plus vu que nous.
Ouais. Je sais pas. En fait, il est. Je sais pas comment dire. Il y a des matchs où il va être à fond, ça va être un lion, lol. Et il y en a d'autres où il va être trop discret et on va se demander s'il est en train de jouer. Et effectivement, là, c'était un peu ça. Il touchait des balles, on avait l'impression qu'il était blasé de la toucher.
Ouais, il choisit ses matchs.
Il faisait des relances un peu pourries. Enfin, déjà, entre eux, il n'y avait pas une bonne cohésion quand ils s'envoyaient les balles, donc du coup, ça pouvait pas fonctionner et avancer vers Fekir ou Memphis, enfin, tout ce qui était devant. Donc, du coup, façon, je pense que ça a fait que le résultat il était un peu pourri.
Ouais,
mais ça doit être ça. Je pense que le mec il a dû voir, il est passé à la télé. Ouais, c'est génial, ça y est, c'est la grande vie pour moi. Et puis le mec, tu sais, il arrête de bosser quoi. Il reste sur ses acquis qu'il a maintenant. Sauf que quand t'arrêtes de bosser, ben finalement, t'arriveras jamais à t'améliorer quoi. Donc pour lui il faut qu'il se remette en question s'il veut vraiment avoir une autre carrière, parce que là ça va faire comme beaucoup de joueurs lyonnais, ça va être on en parle beaucoup, c'est les meilleurs, et puis finalement il va se retrouver dans 5-6 ans en Ligue 2 voire en National, comme d'anciens lyonnais.
Beauvu, même s'il est pas formé là-bas, mais tu vois Beauvu à qui on disait
Il est parti à Vigo, ça s'est pas très bien passé. Il est parti après, je crois, je m'en rappelle plus, c'est pas Levante ou. Non, c'est. C'est une équipe comme ça, espagnole, et puis finalement, il se retrouve à Caen. Ouais. Bon, enfin voilà, quoi, c'est le plus dur est la chute, hein, c'est sûr.
Clairement. Ouais.
Voilà, et ben on va passer tout de suite. Comme on était avec nous, Joseph, on va passer au match de Monaco qui se rendait au stadium à Toulouse. Et malheureusement, Monaco qui fait aussi du sur place. Après la défaite il y a deux semaines face à Marseille dans les toutes dernières secondes, là c'est, je suis obligé de le dire parce que je suis fan de Marseille, c'est pour ça. Non, je plaisante, mais c'est Toulouse qui a fait match nul face à Monaco, hein. Toulouse qui a égalisé grâce aux frères de Batshuayi, hein, Léa Iseka, mais c'est Youri Tielemans qui avait ouvert le score, et ce but avait dû être revisionné avec la goal line technology parce que ça avait touché la barre et ça avait ensuite c'était rentré dans le but, c'était ressorti directement. Ouais. Bon, Monaco, faut s'inquiéter ou pas alors?
Alors, moi je m'inquiète pas. Ça fait bizarre hein, de dire ça, mais je m'inquiète pas parce que qu'on voit le nombre de blessés. D'ailleurs, c'est marrant d'avoir autant de blessés à ce moment-là de la saison, sachant que ça reste quand même des joueurs clés. Quand on voit que Golovin, c'est la recrue star, et pour l'instant on l'a toujours pas vu. Même si c'est pas vraiment une blessure, mais quand on apprend que Falcao il est forfait une heure avant le coup d'envoi, pareil voilà quoi. C'est pour l'instant tout va contre nous, tout va contre l'ASM, mais je pense qu'il y a assez de talent pour qu'à un moment la mayonnaise elle prenne quoi. voilà, faut pas être trop exigeant parce que ça reste jeune. C'est typiquement le genre de match, il y a 3 ans, on l'aurait perdu.
Ouais.
Là, finalement, on gagne pas, mais on revient quand même avec un point. D'autant plus que, bon, j'ai fait ma pleureuse, c'est pas trop mon style. Mais j'ai un peu du mal avec le but de Toulouse. Parce qu'on parle toujours des histoires de hors-jeu passif, il fait action de jeu, il fait pas action de jeu. Quand on regarde, alors je sais plus c'est quel Toulousain qui est 2 mètres hors-jeu, t'as tous les Monégasques qui s'arrêtent, qui le laissent jouer, en disant justement que l'arbitre va siffler. Et puis finalement, justement, le buteur, il profite de cette situation. Et je trouve ça gênant. Ouais. Mais bon, ça veut pas dire que Toulouse ne sera pas revenu à un moment ou à un autre parce que ils nous ont quand même mis le feu. Et voilà, c'est pour l'instant, il n'y a pas grand chose à dire sur le match parce que c'est pas loin d'être indigent, je trouve. Mais on sent quand même que sur certaines actions, il y a un matériel humain qui fait qu'à un moment ça va prendre. Ça peut pas ne pas prendre. Mais bon, après, moi, c'est un discours de supporter. J'espère que dans le vestiaire, justement, ils pensent pas comme ça parce que c'est le meilleur moyen de se planter. Ouais. Et voilà, c'est pas grand chose à dire, si ce n'est que j'attends d'avoir un effectif sur pied pour avoir un jugement un peu plus acerbe s'il y a besoin.
D'accord. Quelqu'un d'autre a vu le match Toulouse-Monaco ?
Ouais, moi.
Vas-y, je t'en prie.
J'ai trouvé Monaco, comme depuis le début de la saison, c'est pas franchement rayonnant. C'est franchement, j'ai l'impression que de revoir le Monaco des saisons avant qu'il soit champion de France. Je sais pas si t'es d'accord avec moi, Joseph, que voilà,
c'est ça,
jouer
c'est
pareil.
C'est pas loin d'être ça. Sauf que comme je disais, avant ces matchs-là, on les perdait, quoi.
Ouais, non, mais ouais, je suis d'accord avec toi, mais dans le style de jeu, c'est. En fait, j'ai du mal maintenant à savoir si Jardim c'est un coach offensif ou défensif. J'ai un peu du mal à le situer. Bon, après, sinon, c'est une équipe qui était jeune sur le papier. Si tu regardes des joueurs qui dépassent, je me demande, à part Glick et Benaglio, s'il y avait des joueurs qui dépassaient les 25 ans sur le terrain.
Ah ouais, non, ouais, mais on a une équipe de Gambardella, quoi. C'est un
voilà. Bon, après, c'est pas mal, il y a du potentiel.
Ouais.
Je suis content que Jardim continue à donner sa confiance à Benaglio parce que je le trouve. Alors, je sais pas si Subasic est blessé.
Mais il était pas sur la feuille de match.
Non, il était pas sur la feuille de match. Ouais.
Parce que de toute façon, je trouve que Benaglio est excellent depuis le début de la saison. Par contre, c'est peut-être pour moi le meilleur monégasque. Je sais pas ce que t'en penses.
Benaglio, il est au rendez-vous depuis qu'il est au club en fait. Et c'est marrant parce que j'ai l'impression que Subasic justement est moins bon. Depuis que Benaglio est arrivé, parce que je pense que c'est le premier gardien, parce qu'à chaque fois il a toujours été mis en concurrence, et Benaglio c'est le premier vraiment qui était pas loin de lui prendre sa place, et peut-être même en train de lui prendre sa place.
Alors qu'il est super vieux quand même. Hein.
35. Après, pour un gardien c'est moins gênant.
Oui, non, enfin, oui, bien sûr. Mais
tu regardes le gardien remplaçant de Paris, je pense qu'il y en a beaucoup qui aimeraient l'avoir.
C'est sûr.
Par contre, je veux tirer mon chapeau à Toulouse, que c'était une équipe que je voyais vraiment jouer le bas de tableau cette saison. Alors bon, Toulouse, je pense que vous êtes d'accord avec moi, on les connaît, ils sont habitués du départ du début de saison canon et puis après ils s'écroulent. Mais ben là, franchement, ça joue pas mal. J'avais peur hein, avec Casanova, mais franchement. Écoutez, pour l'instant, je suis plutôt séduit par cette équipe.
À part la défaite contre Marseille, après, c'est victoire 2-1 contre Bordeaux, victoire 1-0 contre Nîmes, victoire à Guingamp, puis là, le match nul contre Monaco. Tu peux pas. Pour une équipe comme Toulouse, je pense qu'on aurait dit ça dès le début de la saison, ils auraient signé tout de suite, hein, de toute façon.
C'est clair. Mais surtout à Toulouse, il y a un joueur qui est clairement sous-estimé dans notre championnat, c'est Mathieu Dossévi.
Ah oui! Bien sûr, Mathieu, il a bien fait de partir de Metz, hein, de toute façon.
Ah. Ouais, et tu regardes en fait, Dossévi, il a été blessé pendant très longtemps la saison dernière, et la remontée fantastique de Metz, ça coïncide en fait avec son retour. Et je pense que la petite doublette Gradel-Dossévi, si ça prend bien, il y a moyen de faire quelque chose. Je sais pas si vous vous rappelez, l'année dernière, en fait, on parlait du potentiel offensif de Toulouse qui était très mal exploité. Parce que justement, il n'y avait peut-être pas ce passeur. Et Dosevi peut apporter justement ce qui manquait à Toulouse. Même si après, ça reste pas transcendant. On parle quand même de Toulouse. Et j'aime dire le Toulouse de Casanova. Mais je pense que Dosevi, c'est le petit plus.
Ils me surprennent quand même. Je les attendais pas à un niveau aussi élevé de jeu. Même de jeu, avec Casanova. Ouais.
C'est sûr. Voilà, Gabi, tu veux parler un petit peu de ce match? Tu l'as vu, Monaco-Toulouse?
Moi, je veux plus parler rapidement de la situation de Toulouse. C'est une équipe qui a gagné contre des concurrents directs au maintien déjà, qui a pris des points par rapport à Guingamp, qui a 0 point et sur 5 matchs, qui est assez catastrophique. Et tu vois que Toulouse, finalement, avec des joueurs comme Gradel, Dosevi, et puis une bonne défense qui tient le coup face à Monaco, je veux dire, c'est une équipe qui prétend facilement... au milieu de tableau, voire plus. Après, faut voir comment la saison se déroule. C'est vrai, comme vous dites, c'est des équipes qui sont assez irrégulières. Une fois l'hiver passé, qui ont du mal physiquement, qui ont des blessés, qui n'ont pas vraiment de bonnes touches. Monaco, ça va être un peu le cas aussi. Je vois pas qui pourrait remplacer les joueurs titulaires actuellement pour faire aussi bien. Ça va être compliqué pour eux. Même si tu me dis qu'après, Falcao va revenir avec Golovin. Mais ça, c'est des trucs, on sait pas comment ça peut fonctionner encore.
Ouais, clairement. Pas... Mais c'est pour ça j'attends de voir. Après c'est pour ça, on est un peu tôt dans la saison quand tu vois l'effectif de Monaco pour juger. Mais par contre, parce que bon, je pense qu'on est très, très gentil avec Jardim. Si je dois lui faire un reproche, c'est un moment, il faut qu'il arrête avec Jamerson Glick. Ça marche plus, quoi. Et voilà, il y a le petit Endoram. Qui est défenseur central de formation et qui a du ballon en plus, qui est très technique. Et j'aimerais bien qu'il teste au moins une fois titulaire avec Glick, voilà, à la place de Jemerson, juste pour voir ce que ça donne. Les matchs contre Toulouse, tu vois, c'est typiquement le genre de match où tu peux le mettre, Endoram. En plus, le mec que tu mets sur le banc, tu peux lui expliquer, voilà, il y a la Ligue des Champions dans 3-4 jours. C'est pour te faire souffler, même si c'est pas vrai. Mais au moins, t'as une excuse béton pour mettre le mec de côté. Et voilà, moi j'aimerais bien voir Endoram plus souvent.
Ouais. Voilà, Manon, t'as vu le match?
J'ai regardé vite fait le multiplex, ouais.
Ouais.
Bon, après, vous avez dit ce qui est ressorti qui était plus flagrant. Après, effectivement, comme Joseph vient de dire, je pense qu'on est, enfin, on peut pas trop se permettre de juger Monaco parce qu'on sait que ils sont plutôt à monter. Enfin, au début, c'est, enfin, surtout que là, ils ont quand même vachement changé dans l'effectif. Du coup, faut qu'ils retrouvent leur marque. Et je pense que même déjà dans genre 5 journées, ils vont être, ça va être un autre Monaco et ils vont monter en puissance. Moi, je les vois comme ça.
En espérant qu'il y ait une bonne cohésion dès le début, quoi, parce que je pense qu'avec les nouveaux joueurs, il va falloir quand même réapprendre à jouer autrement, quoi. Mais dès que Golovin arrivera, je pense que ce sera déjà. J'ai hâte de le voir sur le terrain de Louis II, puis même sur les terrains à l'extérieur, voir ce que vaut vraiment ce joueur, parce que là, je pense qu'ils ont fait une bonne affaire à Monaco en achetant. Donc on verra, je pense, dans 5-6 journées. Quand tout ira mieux pour Monaco. Voilà, et puis on va terminer avec Marseille-Guingamp. Donc c'était le match Canal d'hier soir. Et Marseille qui s'est imposé 4-0. Ça a été très compliqué, match à la mi-temps, première mi-temps qui a été soporifique à souhait. Oui. Mais comme souvent avec Marseille, toujours une première période où il ne se passe rien, ça ne marche pas. Et puis. Ce fic que Rudy Garcia gueule un petit peu à la mi-temps, et puis on voit un Marseille avec un nouveau visage en seconde période, et puis on a vu Marseille dérouler. Après, voilà, c'était Guingamp en face, ça m'a fait un petit peu penser au match contre Toulouse. Guingamp qui a tenté un petit peu, mais qui n'a pas du tout réussi à inquiéter. D'ailleurs, Pelé, je ne sais même pas s'il a dû arrêter un tir, je pense, tout le reste est passé à côté. Je crois que c'était le match le plus tranquille depuis le début qu'il est à Marseille, Johan Pelé. Et puis on a vu un Marseille beaucoup plus insistant. Et puis voilà, il y a eu des beaux buts. Hein, Dimitri Payet, la reprise de l'intérieur du pied qui est passé. Franchement, c'était un beau but. Florian Thauvin qui est encore en feu. Voilà, heureusement qu'il y a Florian Thauvin à Marseille parce que sinon, je ne sais pas comment ça pourrait se passer. Et Mitroglou qui est là, hein, on rigole beaucoup de lui, mais Mitroglou qui marque, tout simplement. Voilà, il y avait une bonne ambiance. Mais c'est quand même décevant parce que là, le premier test pour moi, encore une fois, ça va être contre Lyon dimanche prochain. Ça va pas être pareil, ce sera pas Nîmes. Malgré qu'ils aient perdu contre Nîmes, ce sera pas Nîmes, ouais. Ce sera un niveau au-dessus. Donc je pense que si Marseille réitère les mêmes premières périodes qu'ils ont fait les cinq premiers matchs, ça, au bout d'un moment, ça passera pas de toute façon. Hein. Et puis il faudra essayer de se remettre en question beaucoup plus tôt. Hein. Gabi, t'as vu le match hier?
Ouais, j'ai regardé le match et le message que je t'envoyais là, juste avant la mi-temps, bah, c'est, pour moi c'était un match, un non-match de Marseille. J'ai pas compris vraiment ce qu'ils voulaient faire. Alors le match s'est bien terminé comme pour Paris. Moi je comparerais bien ce match-là au match de Paris où Guingamp a essayé plein de trucs. Guingamp, ils étaient au maximum de ce qu'ils pouvaient faire, ils peuvent pas faire mieux. Et là où je suis très inquiet pour Guingamp, c'est qu'ils vont finir très très mal la saison. À mon avis, ils vont vraiment jouer le maintien, mais jusqu'à la dernière journée, ça va être très long la saison pour eux. Même s'ils produisent du jeu, ça va être.
Mais c'est pas assez. C'est pas devant, c'est faible devant. De toute façon,
C'est faible au milieu.
C'est faible partout.
T'es sévère quand tu dis devant c'est faible. Je pense que c'est plus dans l'animation.
Il y a Thuram.
Thuram, heureusement qu'il est là.
Parce que t'as un mec qui part tout seul au but et qui travaille. S'il y a personne qui le suit, tu vois.
Non, en fait, ce que je voulais dire, c'est l'animation offensive qui est faible. Je pense qu'entre Marcus Thuram et Nolan Roux, il y a de quoi mec des buts. Bah, tu vois, tout à l'heure, quand on parlait de De Sévi, typiquement, De Sévi, tu le mets à Guingamp. Je pense que ça tombe parce que Nolan Roux, typiquement, tu vois, on s'est moqué de lui quand il en mettait pas une à Saint-Etienne. Et l'année dernière, il met quoi? Il met 13 ou 14 buts.
Ouais.
13 ou 14 buts, tu vois, parce que justement, il avait eu des joueurs qui savaient lui donner la boule, quoi. Et je pense que ouais, c'est
15 buts il a marqué l'année dernière.
15, ouais, tu vois, donc c'est un mec qui sait faire trembler les filets. Je pense que c'est plus une question d'animation et de joueurs de ballon quoi qui leur donne. Je pense que l'équipe elle est coupée en deux aujourd'hui. Quand hier je regarde la compo de Guingamp, je sais pas vous si ça vous a fait la même chose, mais quand je vois qu'il met Thuram sur un côté avec Roux dans l'axe, pour moi Thuram c'est tu le gâches en fait en le mettant sur le côté. Pour moi c'est soit tu joues avec les deux devant, soit t'en sacrifies un et tu tournes.
Il y avait trop d'attaquants. Apparemment c'est un 4-3-3 la composition de départ, mais j'ai du mal à la voir sur le terrain après.
C'est ça parce que le profil des joueurs en fait n'est pas adapté à l'idée. Enfin si c'est vraiment ça l'idée de jouer un 4-3-3 quoi.
Ouais. Non, c'était triste. C'était très triste la prestation des Guingampais parce qu'ils sont pas récompensés de leurs efforts en première période et ils s'en prennent 4 derrière. C'est horrible. C'est vraiment.
On les a pas vus de la seconde période. Hein.
Ouais.
La seconde période, ils étaient absents quoi.
Ouais. J'ai beaucoup aimé ce qu'a dit.
Ils étaient dépassés après.
Ah ouais, mais complètement. Ouais.
Le physique, hein, j'ai l'impression que physiquement ils sont mal préparés hein, la saison.
Bah, je sais pas si vous avez entendu justement Camboire ce qu'il a dit. Hein. Camboire, il a dit on a préparé le match. Mais voilà, on a eu avec la trêve internationale, on a eu 2 semaines pour le préparer et on se rend compte que même avec une prépa vraiment ciblée sur ce match-là, bah, qu'on est capable de jouer que 60 minutes quoi. Et être lucide à ce point-là, bah, tu vois, j'aime bien ce coach et ça me conforte dans l'idée que c'est un entraîneur qui aurait vraiment pu entraîner plus haut quoi et qui a vraiment pas de chance de récupérer des clubs comme ça. Avec tout le respect que j'ai pour eux, hein. Des clubs comme Guingamp.
C'est sûr.
Ouais, je voulais.
Vas-y, Hugo.
Justement sur ce match, bah déjà pour Marseille, un peu comme Paris, c'est même exactement comme Paris, équipe aux deux visages. Hein. Première mi-temps, pas génial. Deuxième mi-temps, bah, y a tout qui rentre, c'est un festival. C'est Marseille d'au Brésil, si je peux m'expliquer comme ça. Mais j'aime bien du côté de Marseille, comme d'habitude, j'ai beaucoup aimé Morgan Sanson. J'ai trouvé excellent. La paire qu'il forme avec Strootman, c'est vraiment pas mal. Puis ça a permis d'installer Luis Gustavo dans l'axe, donc voilà. Je pense que Marseille a trouvé un équilibre, et ça, c'est une bonne nouvelle.
Et enfin, en mettant Mitroglou en attaque, je trouve que ça change quand même pas mal de trucs. Valère Germain, tu vois, de toute façon, il le fait encore jouer en attaque, hein, tant qu'il va s'obstiner à faire ça tout le temps hein, maintenant. Hein, mais je pense qu'il faut mettre Mitroglou d'entrée. C'est autre chose avec Mitroglou. Hein. Bon, hier, au début, il n'a pas eu trop de chance et puis il a marqué le but à la quatrième but. Mais Mitroglou, il a plus de, il est plus à l'aise dans ce système-là que Germain, quoi, tout simplement.
Et pardon. Et je voulais vu qu'on parlait de Guingamp un peu, je voulais rajouter un truc. Moi, je m'alarme pas pour Guingamp. Déjà, il y a de la qualité. Et surtout, si vous regardez quelles équipes ils ont rencontrées, il me semble que sur les 5 journées, ils ont rencontré les 4 premiers. Donc les 4 premiers du début de saison.
Ouais, ils ont pas le coup, enfin, c'est pas favorable pour leur début.
Voilà. Ils vont pas rencontrer tout le temps des équipes en pleine bourre.
Ouais, c'est pas comme Toulouse, c'est vrai. Ouais.
Voilà, oui, comparer exactement. Parce que pour moi, c'est des effectifs qui se valent à peu près. Et encore, je préfère l'effectif de Guingamp. Mais moi, il y a un truc que je trouve un peu dommage, c'est qu'ils ont deux jeunes que je trouve excellents, qui jouent pas beaucoup. C'est Marcus Coco et Ludovic Blas. Et je sais pourquoi hier ils n'étaient pas titulaires. Est-ce qu'ils étaient blessés je viens de voir qu'ils sont rentrés en cours de jeu, je comprends pas. Parce que c'est vraiment des joueurs qui ils sont jeunes, ils amènent du dynamisme. Et voilà, tu peux te faire une attaque à 3, Coco à gauche, Blas à droite et Marcus Thuram en pointe. Et ça dépote, je pense que ça dépote.
Ah, il a voulu mettre l'expérience. Je pense qu'il a voulu mettre l'expérience d'abord avec Guido et puis Benezé et puis faire rentrer les jeunes à la fin. Il avait peut-être pensé que. Ça, c'est que les mecs.
Après, c'est pas parce qu'ils étaient en équipe de France Espoir et que justement, quand ils parlaient de la préparation qui était très axée sur ce match-là, comme les mecs, ils n'ont pas pu s'entraîner ensemble, il a privilégié ceux qui n'étaient pas partis avec les sélections.
Ouais, peut-être maintenant que tu me dis ça, oui, ça s'entend, ouais.
Donc voilà, Marseille qui gagne 4-0, Marseille qui est deuxième à la différence de but derrière Paris. On va tout de suite, juste avant de parler de la semaine européenne, on va parler des tops et des flops qu'on a eu très rapidement, sans forcément parler plus longtemps de nos flops, sans détail, voilà. On va commencer par toi Manon, ton top et ton flop de cette cinquième journée de Ligue 1.
On a juste pas parlé du match de Bordeaux où ils se sont fait un 3-3 contre je sais plus trop qui.
Nîmes.
Ouais. J'ai vu juste en gros un résumé. Enfin, ça se fait avoir de l'envie des deux côtés. Donc du coup, c'était plutôt beau à voir. Moi, je suis un peu dégoûtée de Costil parce que Didier Deschamps, il l'aime beaucoup. Il l'appelle à chaque fois quand il y a un blessé. Mais je trouve que quand il joue, il a rien sur le terrain. Enfin, moi, je l'ai vu en plus la saison dernière contre Saint-Étienne. Et franchement, il est endormant comme gardien. Et après, flop, je suis désolée, mais c'est Lyon. Parce que moi, j'attends toujours qu'il fasse des beaux matchs. Enfin, des beaux matchs. La réussite, au moins. Et là, sur le coup, il n'y avait vraiment pas d'envie. Enfin, on avait l'impression que tous les joueurs, ils étaient blasés. Enfin, j'attends mieux, en fait, de leur part. Donc, voilà.
D'accord. Hugo, ton top et ton flop.
Alors, mon top, Angers, qui allait gagner à Dijon, 3-1. Parce que c'est pas forcément facile de gagner à Dijon. Et alors, mon flop, je vais dire la Saint-Etienne, parce que ils sont passés complètement au travers de. Ah non, excusez-moi. Mon flop, je vais mettre Nantes-Reims parce que c'était un match complètement à Dijon. On voit que je l'avais dit au début que c'était une équipe qui n'était pas flamboyante, contrairement à Nîmes, c'était vraiment. Deux promus avec un style différent. Et puis Nantes, c'est la promesse du beau jeu, je l'attends toujours le beau jeu.
Bah, c'était un match pour faire la sieste, quoi. 15h en plus.
14h, bonne heure pour faire la sieste. Ouais.
C'est le seul 0-0 dans une journée à 34 buts.
En plus, c'est ça. Ouais. vu que tu parles, ton top et ton flop, Joseph.
Alors, moi, je vais avoir un double top, mais je fais vite. Alors, pour moi, le Jimmy Briand. Jimmy Briand, parce que le mec toujours là. Toujours là, rien à dire, et ça fait plaisir d'avoir des mecs comme ça dans notre championnat. De dire qu'il a failli partir. Et le deuxième top, il y avait l'âme de Juninho qui a flotté sur la Ligue 1 parce qu'on est droit à trois beaux coups francs.
Ah oui.
Trois beaux coups francs directs.
Bobichon.
Ça fait plaisir. Et mon flop, alors ça n'a rien à voir avec le terrain, mais avec quelque chose qui était juste à côté. Alors je sais pas, c'est qui a trouvé cette idée là, mais l'histoire du jacuzzi là au bord du terrain là.
Faut n'importe quoi.
C'est Stéphane Guivarch qui a organisé le concours.
La piscine, voilà.
Franchement, j'avais trop envie qu'ils se prennent un ballon dans la tronche là, dans leur jacuzzi. Là.
C'est, non, mais c'est quoi ça,
voilà,
c'est, après, ça. Non.
Voilà, c'est, voilà, faites rêver les gens. Bah,
bien joué, pas, bien joué. Ouais.
Mais mettez-leur une glacière à côté du banc de touche pour qu'ils soient tout près du, pour qu'ils soient tout près du terrain, je sais pas. Mais un jacuzzi.
Mais je te jure, moi je marque le but là à côté du jacuzzi, je vais dedans et après ma célébration elle est dans FIFA, c'est sûr.
c'est clair. Non, donc voilà, presque ça.
D'accord, Gabi.
Alors moi en fait je vais être original, je vais juste parler des gardiens de but. Alors il y a eu un petit sujet, c'est ça qui m'a donné l'idée sur Canal Plus ce week-end, si vous avez regardé J+1, je sais pas. Il y avait un sujet sur les gardiens et c'est vrai qu'on met pas assez en valeur les gardiens, on met plus leur bourde, en valeur. Et c'est vrai que Mike Maignan, je pense que c'est un gardien de but qui peut aller très très haut, qui est à Lille en ce moment, et je pense qu'il est il y est pour beaucoup pour le bon début de saison de Lille.
Mais il arrête encore un péno.
Ouais, et super gardien et je pense qu'il peut aller loin. Et le flop, ben c'est Samba à Caen qu'il faut vraiment mettre sur le banc de touche parce qu'il coûte trop de points à Caen et ça peut freiner vraiment la progression du jeu. Tu mets en place une tactique le dimanche et ton gardien il fait perdre des points à l'équipe, c'est pas possible. Donc voilà.
Puis ben moi c'est ouais, moi je voulais mettre en top Lille parce que Lille depuis ce début de saison franchement ils font je peux pas dire des miracles, mais c'est à des années-lumière de ce qu'on nous a proposé Lille l'année dernière. C'est une équipe qui est belle à voir jouer en plus. Franchement, il y a rien à dire. Ils procurent un très bon jeu. Nicolas Pépé qui est en feu là, qui a mis un triplé en plus. Bon, ok, il y a eu deux pénaltys, mais faut quand même les mettre. Voilà. Donc le LOSC qui est troisième actuellement, mais qui fait vraiment des bons matchs. Et puis mon flop, c'est Bordeaux. Bordeaux qui, par deux fois mené, par deux fois, bah, avec une défense mais horrible, s'est fait remonter, je veux dire, par une vaillante équipe de Nîmes. Mais franchement, la défense de Bordeaux, c'est du grand n'importe quoi. Quand tu mènes 3-2, t'as pas le droit de te prendre un but comme ils se sont pris avec Bozok. C'est n'importe quoi. C'est du gros flop. Et puis 15 895 spectateurs au Matmus Stadium, franchement, les supporters sont complètement désintéressés par cette équipe de Bordeaux, quoi.
Je serais supporter de Bordeaux, je pense que je serais désintéressé avec.
Mais voilà, non, mais c'est tout à fait normal. T'arrives pas, t'as une équipe quand même qui a sur le papier qui peut faire quelque chose et finalement, bah, ils y arrivent pas et puis c'est ennuyeux leur match, quoi.
Il y a peut-être pas assez de passionnés de foot à Bordeaux aussi, hein, après. Quand tu vois que l'OM qui était en D2, le Vélodrome était plein. Paris qui avait équipes de merde en 2008-2009, par là.
Pourtant, Bordeaux, ils ont toujours eu pas mal.
Strasbourg aussi.
Ils ont pris Ricardo comme entraîneur, ça fait pas rêver, hein, ça va pas faire venir les gens au stade.
Ah, puis le pauvre Ricardo qui avait fait une attaque cardiaque il y a pas longtemps, voilà, qui avait fait un AVC, tu le sens vraiment diminué. Et le pire, c'est qu'un manager, il peut pas, ils l'ont bien précisé hier. Voilà, il n'a pas les diplômes, donc lui, il est juste sur le banc et il est obligé de rester sur le banc, quoi. Donc, je sais pas si.
Mais Jimmy Briand, c'est pour ça que je l'ai mis dans mes tops, c'est que Jimmy Briand, ça va être l'arbre qui va cacher la forêt des carences bordelaises.
J'espère pour Bordeaux, parce que bon, c'est vrai que quand même Bordeaux, t'as besoin d'avoir. C'est quand même une équipe historique, Bordeaux, dans les années 80, c'était imparable, Bordeaux, quoi. Et de voir un Bordeaux comme ça. C'est pas terrible, mais bon, avant le Parc Lescure ou Chaban-Delmas, il était quand même toujours plein le stade. Je me souviens, début 2000, même jusqu'à ce qu'il soit champion de France. Et puis après, ça a été mais vraiment la débandade, quoi.
Bordeaux, c'est plein quand ça gagne. Hein.
Malheureusement, c'est ça. Mais ce stade, déjà, il est pas beau, ce Matmut Atlantique. Ouais. Hein, c'est vraiment. Impersonnel comme stable. Voilà, donc on arrête sur la Ligue 1, on va passer à la Champions League déjà, et avec la Champions League qui reprend ses droits dès demain, et on va avoir droit en même temps au match de Monaco contre l'Atlético Madrid et à Liverpool PSG. C'est Atlético Monaco ou Monaco Atlético ?
C'est à Louis II. C'est à Louis II. Dans le chaudron de Louis II où l'Atlético va.
Le chaudron.
Ah, peut-être qu'en Champions League ça peut devenir un chaudron.
Ah, c'est une marmite, marmite.
Voilà.
Ah
ouais,
ça boue doucement.
Cassolette. Une cassolette.
Ah, ils annoncent 34 degrés.
C'est un thermos. C'est un thermos.
Bon, ok, donc dans ça. Ok, donc dans la petite bouillotte en forme de grenouille de monégasque. Ouais, blague à part, ouais, c'est vraiment l'inconnu. C'est vraiment l'inconnu parce que, comme on disait tout à l'heure, en fait, avec le début de saison au ralenti en championnat, ben, c'est dur de voir où on est l'équipe monégasque. Mais quand on regarde l'équipe de l'Atlético en championnat, et je précise bien en championnat, on a l'impression qu'ils ont un peu les mêmes mots, quoi. Donc, vas-y, maintenant, tu disais.
Ça me fait pas. Enfin, j'ai regardé du coup le match de l'Atlético là ce week-end et
pas terrible. Hein.
Ils butent, ils y arrivent pas. Enfin, ils essayent mais ça fonctionne pas. Griezmann, lol. Enfin, il est français, on l'aime fort, mais il y arrive pas. Même avec Costa, ça avance pas. Et je pense que ça va leur jouer des tours parce que même si Monaco ils sont en galère, dans le championnat français, on ne sait pas s'ils se réveillent et que l'Atlético continue à dormir, bah ça va tourner positivement pour Monaco et l'Atlético aura que les petites miettes. Après, j'attends de voir comment Lemar va jouer parce que là, il va quand même être face à son ancien club. Moi, je trouve qu'il fait un bon début avec l'Atlético. Il y en a qui arrivent encore à critiquer. De toute façon, il y en a toujours.
Ouais, mais on peut pas en empêcher. Hein.
Franchement, pour moi, l'Atlético, ils ont fait un bon achat parce que moi, j'ai regardé la saison dernière où, bon, voilà. Mais lui, sur son poste, il met un. Je sais pas, il est dynamique et du coup, bah, ça passe par lui. Il y a des balles, il essaye de les faire repasser devant. Bon, ça passe pas plus. Mais par exemple, le match de ce week-end, si on prend celui-là comme exemple pour l'Atlético, ça passera pas contre Monaco. On va se taper encore un 0-0 ou un 1-1. Hein, faut se préparer à ça.
Moi, je vais leur faire un bisou. Hein.
Tu prends un point, tu prends, Joseph.
Ah bah, un point, ouais.
Ah ouais, franchement, ouais. Non, l'Atlético, c'est chapeau 1. Hein.
Je suis désolé, l'Atlético, je regarde souvent chaque match, mais là. T'étais trop dépité, genre même fin.
Ça fait six ans qu'ils ont pas aussi, enfin qu'ils ont pas aussi bien débuté le championnat, quoi. Enfin ouais. Voilà, ça fait longtemps hein, qu'ils ont pas eu un flop comme ça du début de saison. Hein. Alors donc alors, c'est faisable demain.
Je sais pas, ou alors ils sont heureux d'avoir gagné l'Europa League, je sais pas.
Ouais. Alors je vais, vous savez que je suis fan des théories toutes moisies. Ouais. Là j'en ai une là. Est-ce que le Real l'année dernière n'aurait pas fait des petits justement en délaissant son championnat et en concentrant tout sur la Ligue des Champions?
C'est vrai. Ouais.
Est-ce que on commencerait pas à avoir des clubs justement qui pourraient essayer de reproduire ce schéma-là?
Parce que l'Atlético, au moins le Real, l'avantage du Real, c'est que bon, ils avaient quand même de grandes chances. Enfin, c'était un des favoris de la Ligue des Champions. L'Atlético, je sais pas si tu peux les mettre encore dans les favoris.
Ouais, mais s'ils se concentrent que sur la compète, tu regardes le Real l'année dernière, ils ont laissé tomber leur championnat. Hein.
C'est vrai.
Ils ont laissé tomber leur championnat.
Enfin, ils avaient quand même pas hyper bien commencé. Enfin, je sais que contre Tottenham, ils y arrivaient pas. Hein. L'aller comme le retour.
Oui.
Hein.
Ah oui. Mais sur la deuxième phase. Ils ont
ils se sont réveillés, voilà. Effectivement, ils ont lâché la Liga en se disant maintenant faut qu'on pète la. Après c'était Zidane qui avait sans doute ça dans l'esprit et du coup.
Non, clairement. Bon après j'ai dit, hein, c'est une théorie foireuse, mais je pense que ouais, le révélateur ce sera demain 21h. Et comme pour Monaco, hein. Comme pour Monaco, je pense que Jardim il peut mettre la même équipe que contre Toulouse. Il y aura un autre état d'esprit. Comme souvent, les mecs, ils disent, hein, la musique, elle galvanise. Et je pense qu'à Monaco, on n'est jamais aussi fort que quand on est outsider. Donc,
je vais vous dire, il y a une équipe. Alors, on parle beaucoup de trois équipes dans ce groupe, mais je pense que la quatrième équipe est moins faible qu'on le croit. C'est le FC Bruges. Ouais, qui est champion de Belgique. Mmh. Et moi, j'ai vu jouer, je les ai regardés. J'ai les chaînes belges vu que je suis lorrain je les ai vus et j'ai discuté avec un ami qui est supporter de Bruges et voilà, l'équipe elle a quand même une bonne base. C'est une équipe qui forme de plus en plus de joueurs de l'équipe de Belgique et des équipes jeunes et je pense voilà, on aurait tort de sous-estimer cette équipe de Bruges, je pense, surtout vu que sur quand même les quatre équipes du groupe, et bah, donc on a Bruges. On a deux équipes qui sont un peu malades, là, AS Monaco et
Madrid.
Et on a le Borussia Dortmund qui Ouais, qui déroule certes, mais qui est jamais exceptionnel en phase de groupe Ligue des Champions.
C'est vrai. Bon, on verra bien. Donc demain, premier gros test pour Monaco. Premier gros test aussi, on en avait parlé pour le PSG qui se rend Liverpool. Liverpool qui avait battu Tottenham samedi dernier.
C'était pas compliqué.
Ouais. Bah, de toute façon, voilà, t'avais Lloris qui est mis à l'écart. Donc t'as une autre équipe de Tottenham. Tottenham qui a marqué dans les dernières minutes. On voyait un Tottenham complètement diminué, puis un Liverpool qui a déroulé finalement et qui s'est imposé logiquement. Gabi, toi, tu le sens comment ce match demain? Est-ce que tu penses que Paris va. Non, c'est pas. Enfin. Donne-moi tes impressions, parce que je me dis, est-ce que Paris va dérouler comme en championnat? Ça va pas être pareil de toute façon.
Non. Ouais, mon sentiment, c'est, je suis un peu comme vous. Moi, j'ai regardé le match contre Tottenham là, et là où je suis inquiet, c'est que Liverpool, c'est une équipe qui accepte de souffrir et de ne pas avoir le ballon, un peu à l'image du Real l'année dernière. Ils ont un peu le même style de jeu cette année. Après, je sais pas s'ils vont rester comme ça à Liverpool, parce qu'on sait que autant Tourelle que Jurgen Klopp, ils changent de tactique pendant le match, ils s'adaptent à l'adversaire, ils n'ont pas un truc fixe. Mais là où je suis inquiet, c'est que devant, tu as Sadio Mané, tu as Mohamed Salah, tu as un super milieu de terrain, une super défense. C'est clairement le vice-champion d'Europe, Liverpool. C'est pas une équipe qui est arrivée en finale par hasard. Quand ils ont étrié les Manchester City, etc., c'est pas par hasard. Et je pense que le PSG, vu les prestations en championnat qui sont basées sur les individualités, je pense que si le PSG, malheureusement, ils se prennent un ou deux buts sur corner, ils vont être incapables de revenir au score parce qu'il n'y a pas de collectif assez huilé. Les défenseurs, si Tourelle joue encore avec trois défenseurs centraux, ça risque de faire très très mal sur les côtés avec les débordements. Et je pense pas que le PSG est préparé. C'est un match qui arrive trop tôt dans la saison, je trouve, pour Paris. On veut faire de ce match un test pour les Parisiens face à Liverpool. Et je pense que ce test va s'avérer très difficile et beaucoup trop tôt au début de saison pour des Parisiens qui ont eu des matchs trop faciles en championnat. Ils n'ont pas livré des matchs où ils ont eu de la difficulté, ils n'ont jamais été menés au score, enfin, c'est contre Guingamp, si, je crois, mais c'était pas des matchs avec des forces adversaires en face, des fortes individualités, pardon. Et je crois que ce Liverpool-PSG, il y aura un petit round d'observation au tout début, et quand Liverpool va avoir les faiblesses du PSG en défense, ils vont presser comme des malades sur les côtés, et je pense que Paris va pas réussir à s'en sortir. Et c'est pas Neymar, c'est pas comme vous dites, hein, Neymar, au début de saison, vu ce qu'il fait, il garde trop la balle, il ralentit le jeu, comme a dit Hugo. Je pense pas que c'est un joueur qui est préparé mentalement à jouer top équipe au début de saison comme ça, après une Coupe du Monde ratée avec le Brésil. Et je crois que ce match, et malheureusement, ça va décider déjà le premier du groupe. Et ça va être compliqué de sortir avec une défaite de Liverpool. J'espère sincèrement que Paris va être capable d'ouvrir le score et justement de ne pas être derrière. Mais j'ai du mal à... Vu les prestations, je suis pas pessimiste, hein, mais l'équipe ne me paraît pas prête, voilà, pour résumer.
D'accord. Ouais.
Alors, vas-y Hugo, vas-y.
Moi, je pense que, au vu des styles de jeu des deux équipes, je pense que on peut très bien avoir un match où une équipe va écraser l'autre. Je pense que l'équipe qui va marquer en premier va avoir un avantage... très important. Alors ça paraît un peu bateau de dire ça, mais pour ce match c'est plus vrai que jamais. On a deux équipes, voilà, qui ont un peu le même style de jeu, même si à Paris il y a quand même un peu plus une volonté d'un football de possession que du côté de Liverpool, où c'est vraiment un football de vitesse. Ça va être intéressant aussi pour le duel entre des coachs. Tourelle, c'est un peu, si vous êtes d'accord avec moi, confirmez-moi, mais c'est un peu le disciple de Klopp, non?
Ouais, c'est vrai.
Et du coup, voilà, ça va être une confrontation entre deux coachs qui sera assez intéressante tactiquement. Après, je pense que Liverpool, pour moi, a l'avantage sur Paris. Je ne serais pas surpris que Paris prenne une raclée. Alors, je ne dis pas que Paris va sortir de la Ligue des Champions dès le premier tour, mais je ne serais pas surpris que Paris prenne une raclée contre Liverpool, comme je ne serais pas non plus énormément surpris si c'est l'inverse qui se déroule. Vous comprenez? Ça va vraiment se jouer à la force mentale. Et à mon avis, à ce jeu-là, Liverpool, ils ont quand même plus de force mentale qu'à Paris. J'ai peur que Paris, ils abdiquent s'ils commencent à perdre 1 ou 2-0. Parce que je ne suis pas certain que le traumatisme, même s'il n'y a plus énormément de joueurs, mais ça reste imprégné dans le club, je ne suis pas sûr que le traumatisme du 6-1, il a été totalement effacé de l'ADN du PSG.
Non, je suis d'accord avec toi. Ouais.
Ouais. Ouais. On verra bien.
Moi, je vais même rajouter quelque chose. Dans l'effectif de Liverpool, il y a le joueur qui manque à Paris. Il y a Fabinho.
Ah ouais, c'est vrai, non, mais t'as raison.
Il y a Fabinho. Et par là, ce que je veux dire, c'est que le cœur parisien a pris sa retraite en fin de saison dernière. Il n'a pas été remplacé. Et typiquement, un mec comme Thiago Motta, il va manquer sur ce genre de match. Quand on voit la prestation de la Lassana Diarra ce week-end, qui devrait être censé apporter justement ce vice, cette expérience, on se dit que ça va être compliqué. En plus, de mémoire, Verratti, il est suspendu.
Ouais, exactement. Voilà.
Parce qu'il avait pris un rouge, je crois, dans le dernier match de Ligue des Champions, ou l'avant-dernier, je sais plus. Donc Verratti suspendu, donc ça veut dire qu'au milieu de terrain, il va mettre qui? Donc Rabiot, sûr. Ouais.
Ah, c'est ça, là justement, ils sont en train de se poser la question quel milieu de terrain pour le match de demain, quoi. Ils sont.
Typiquement, tu vois. C'est-à-dire Rabiot, sûr. Donc soit tu mets Diarra, ou sinon après tu pars dans les jeunes du centre de formation, quoi.
Il y aura sûrement Draxler dans le lot, je pense. Il n'y aura pas Marquinhos, comme ils disent.
C'est dangereux, là.
Ouais, mais après, ce que je veux dire, c'est pour les tâches défensives. Draxler, c'est un couteau suisse, un couteau allemand. Il fera le taf, mais c'est pas ses qualités premières, quoi.
Ouais, on est d'accord. Mais je pense que finalement, le 3-5-2, tu le verras pas demain. Tu verras plus avec 4 défenseurs, parce que.
Ouais.
J'y crois pas. Il n'y a pas assez de force en défense pour faire un 3 centraux. Ouais. Parce que Bernat, apparemment, il va être aligné. Malheureusement, et ça va être. Il peut faire un bon match, hein, mais pour moi, c'est un Maxwell faible. Il défend pas.
Ouais.
C'est sûr.
Sinon, il va devoir faire monter Marquinhos au milieu. Mais je pense que pour ce genre de match, Marquinhos, faut qu'il soit derrière.
Ça me rappelle, tu sais, à Manchester City, quand Paris avait tenté justement une autre tactique avec Aurier, etc. Ça va être une catastrophe.
C'est une catastrophe, ça, c'est sûr. Ouais. Bah d'ailleurs, avant de se quitter, on va parler de Manchester City Lyon, hein, qui se passera donc mercredi. On en a parlé tout à l'heure, hein, que beaucoup pensent que Lyon va se ramasser une fessée. Qu'est-ce qui pourrait faire que Lyon gagne mercredi? Vous avez une idée?
Que Lyon gagne, c'est-à-dire une bonne défense et puis un coup franc. Voilà. On ferme la maison coup franc à la Valbuena, quoi, tu vois.
Ouais.
Valbuena à Liverpool, voilà, je me souviens de ça, c'est tout.
Après. Ouais,
c'est ça. Ça va être compliqué. Hein.
Ouais, moi j'ai du mal à. Bah, tout à l'heure, on disait qu'il y a toujours possibilité, on sait jamais.
Oui, je dis ça, mais c'est pas forcément je crois que Lyon va gagner, mais on sait jamais.
Bah,
hein.
En fait, si c'était à domicile, why not? Mais là, le fait que ça soit à l'extérieur, pour ouvrir le bal. Je pense que ça va être compliqué. Surtout que City, il y a des chances que ce soit un peu comme l'année dernière.
Un problème à domicile.
Voilà. Ouais. Montrer dès les phases de poule qu'ils se positionnent en tant que favori pour décrocher la timbale. Je ne sais pas si vous rappelez l'année dernière. Hein, on n'était pas beaucoup à ne pas voir City aller en finale, quoi.
C'est vrai.
Donc je pense qu'ils vont repartir sur les mêmes bases. Et bon, j'allais dire avec tout l'amour que j'ai pour Lyon, mais bon, désolé Manon, mais j'en ai pas des masses. Mais comme c'est un club français, voilà, bah ça me ferait de la peine qu'ils prennent une raclée. Mais je vois pas beaucoup d'éléments qui font penser que pour ce match-là, en tout cas, il puisse exister.
C'est sûr.
Ça a vraiment manqué d'expérience.
Hugo, tu voulais rajouter quelque chose?
Moi, je pense que le gros problème, alors vous avez cité Marseille et Liverpool, mais Marseille et Liverpool, sur le banc de Marseille, il y avait Eric Gretz, une grande gueule. Voilà. C'est pas un super coach, forcément tactiquement, mais c'est une grande gueule qui était capable de secouer les joueurs. Et là, c'est pareil, à chaque grand exploit, derrière chaque grand exploit, tu as toujours pas forcément un grand entraîneur, il y a un entraîneur qui s'est tapé du poing sur la table. Voilà. Et Genesio, je suis désolé, mais voilà, on parlait de Pantin, mais alors tu parles de Pantin, mais je pense que Genesio, c'est le mec le plus lisse que j'ai jamais vu sur un banc de touche. Tu mets Alain Casanova, il a plus de charisme que Bruno Genesio. Ah, mais c'est incroyable. Et du coup, alors en Ligue 1, ça peut passer, je dis pas, hein. Et je suis pas certain, c'est un excellent formateur, hein. Quand on voit tous les joueurs qui sont sortis du centre, et voit qu'il donne ses joueurs à avoir. Mais Genesio, c'est un bon mec pour un staff. C'est pas du tout un bon entraîneur principal. Il faudrait un mec qui ait de la gueule, si vous.
Dupraz.
Voilà.
Je
vais dire, même Pascal Dupraz, pour un match comme ça, pour moi, c'est mieux que Genesio. Parce que, alors, Pascal Dupraz, il a peut-être des limites tactiques énormes, mais il a réussi à sauver Toulouse du marasme. Et il a réussi.
On parle de Ligue des Champions, quand même.
Oui, non, je sais, non, mais. Il arrive, du coup, il a tiré son groupe. C'est ça le truc. Il s'est secoué, alors que Genesio, jamais il ferait ça. T'aurais mis Genesio à Toulouse, il serait descendu en Ligue 2. Il aurait jamais eu la causerie que Dupraz a eu le jour du maintien. Ouais. Donc voilà, je pense que le gros souci demain, ça va être Genesio. Pas tactiquement, hein, c'est surtout psychologiquement. Et je pense qu'il y a moyen également qu'il ne branle. J'espère pas, parce que ça veut dire que potentiellement les trois clubs français peuvent prendre des raclées. Hein.
Ouais. Non, mais par contre, après, si je peux rassurer Manon, ce qui peut faire que Lyon existe, c'est justement le fait que ça soit un gros match et en Angleterre. Et quand on parlait tout à l'heure de Memphis qui disait qu'ils visent plus haut, s'ils sont tous à penser comme ça, on disait tout à l'heure, on sous-entendait qu'Awar choisissait ses matchs. Ben voilà, ben si mercredi il choisit de jouer, il joue à son niveau et que tous les Lyonnais jouent à leur niveau, bah on sait jamais, hein. On sait jamais. Voilà, c'est toujours regardé.
Ah bah moi je. Ça se passe comme ça, ça me va, mais j'ai fort. Enfin, j'y. Enfin.
Ouais, mais après je pense. Que...
Ça va être très compliqué.
Ouais, je pense quand même que ça a manqué de caractère. Je pense quand même que ça a manqué de caractère et pour ce genre de compétition, c'est important.
Fekir, enfin, je pense que il manque un peu. Enfin, je l'aime beaucoup. Il y en a beaucoup qui l'aiment pas, mais je l'aime beaucoup. Mais je pense que même s'il est capitaine, il ouvre pas assez sa bouche. Et je pense que s'il remet plus l'équipe, il y aurait moyen que sur le terrain, ça se sente. Mmh. Il a beau des fois essayer de leur faire comprendre d'avancer, mais s'ils ont pas, on revient toujours à la même chose. Ils ont pas la motivation. Donc,
Ouais,
c'est ça. Bon ben verdict demain et puis mercredi. C'est dommage que demain Monaco joue en même temps que Paris, parce que va falloir jongler entre les deux rencontres. Si vous avez RMC, c'est formidable. Si vous n'avez pas RMC, écoutez, voilà, en streaming, hein, tout simplement. Bon ben écoutez, merci.
Alors,
d'avoir.
Je peux dire un petit mot vite fait. Je suis désolé. Oui. Ça a pas encore commencé, mais je vais déjà dire un gros flop pour la Ligue des Champions. Les matchs à 19h, non quoi.
Ah ouais. ils avaient commencé ça avec l'Europa League, et puis là, maintenant ils commencent ça avec
l'idée de faire de manière qu'on voit plus de matchs, machin et tout. Ouais, c'est gentil, mais voilà. Si vous voulez que les stades soient pas pleins, continuez. Puis après, ça sera à 17h,
c'est ça.
À 15h.
Et à 14h et midi, et puis
pour la Chine.
Pour la Chine, exactement. Non, mais ça va être ça. Et attention, peut-être la Ligue des Champions, la finale aux États-Unis. Aussi.
Ouais, j'ai vu ça, ouais.
C'est ce qu'il se dit, ça va se faire de plus en plus. Peut-être à New York.
Bon, on a une bonne raison pour pas la jouer.
Voilà.
De toute façon, on n'y est pas, donc ils peuvent la jouer où ils veulent. Hein.
Ouais.
Donc voilà. Et puis pour ceux qui aiment l'Europa League, comme moi, surtout pour les supporters bordelais, la chaîne numéro 23 va diffuser les deux premiers matchs de Bordeaux en clair. Donc c'est devenu RMC Story, je crois, à la place numéro 23. Et il y aura les deux matchs de Bordeaux en clair à partir de 18h, je crois, les matchs pour l'Europa League. Ça remplace W9, hein, qui n'a plus les droits de l'Europa League. Donc voilà. Bah écoutez, merci à vous d'avoir participé. Manon, tu reviens quand tu veux, hein, t'es la bienvenue. C'est ici chez nous dans notre émission, comme disait Jacques Martin. Et puis les gars, merci, hein, encore une fois. Et puis on se retrouve dès la semaine prochaine pour le débrief de, ou je sais pas, peut-être soit la semaine prochaine, soit en fin de semaine pour le débrief de la Champions League et puis de l'Europa League.
Ouais.
On verra bien.
Pas de souci.
Et écoutez, bonne soirée.
Bonne soirée
tout le monde.
Salut à tous.
Bonne soirée.
Salut.
Voilà, bah écoute, une heure